Je vous propose d'y réfléchir un peu ce matin et de le faire à partir d'une petite phrase adressée par l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 19, ce n'est pas la peine de le prendre, je vais vous la lire, on lira d'autres passages un peu plus longs, mais là c'est juste une petite phrase et qui nous dit ceci: « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien sûr, cette phrase, elle ne sort pas d'un chapeau, elle est tirée d'un contexte, et ce contexte, c'est celui de la résurrection, et plus précisément de la contestation de la résurrection, puisque, vous le savez, la résurrection, contester la résurrection de notre résurrection n'est pas l'apanage de l'époque, de notre époque, ni celle même de l'époque de l'apôtre Paul, de tout temps, et pour tout motif, la résurrection a été contestée, considérée comme peu raisonnable face à la réalité matérielle du monde et difficilement concevable pour nous mortels. Mais Paul le dit expressément dans les versets qui précèdent, « Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Et c'est donc après cela qu'il conclut, « Si donc c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Si notre espérance ne porte pas au-delà des 70, 80, voire 100 ans que nous passons sur cette terre, nous serons en effet très malheureux et sans doute très déçus tout au long de la vie. Si nous estimons que notre foi doit rendre notre vie plus facile, et quand je dis « doit », je le dis au sens de quelque chose qui nous est dû, alors là, nous irons de désillusion en amertume, car rien n'est garanti sur ce plan-là. Si nous vivons avec l'idée que nous disposons d'une sorte de capital temps, qui est la durée de notre vie, pour accomplir nos projets, vivre nos passions, faute de quoi toute chance est perdue après la mort, quand ce n'est pas après un certain âge, nous pourrions alors peut-être nous perdre dans une course effrénée au droit au bonheur, à la réussite, à l'épanouissement, au plein accomplissement, et j'en passe, et toutes sortes de choses qui vont nous laisser amers si elles ne se réalisent pas, ou qui, même si elles se réalisent, nous laissent insatisfaits par leur incomplétude, par la courte durée des sentiments qu'elles provoquent en nous. J'ai souvent évoqué avec vous, ça fait déjà un certain temps, mais peut-être que ceux qui sont arrivé plus récemment dans l'Église ne s'en souviennent pas, mais j'ai plusieurs fois évoqué avec vous ma passion pour la conquête de la Lune par les Américains dans les années 60-70. Et oui, j'étais très jeune, j'avais une dizaine d'années, mais je percevais assez bien le côté extraordinaire de cette aventure. Il faut bien penser que de toute l'humanité que la Terre ait portée, ils sont 12 et seulement 12 hommes à avoir marché sur la Lune. Et donc imaginez-vous à leur place de vous réveiller un beau matin, en plein milieu de la vie, hein, 30-40 ans, c'est à peu près, ils avaient tous à peu près dans cette fourchette-là, et de réaliser que la semaine dernière encore, vous gambadiez sur la Lune comme un cabri, et que maintenant il vous reste à vivre autant de temps sur Terre, dans ce monde si terre à terre, c'est bien le cas de le dire. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent? Et vous avez probablement entendu parler de James Irwin, un astronaute chrétien qui est allé sur la Lune avec Apollo 15 et qui a ensuite beaucoup partagé à travers le monde sa vision chrétienne de cette aventure. Mais il y a un autre astronaute qui n'était pas chrétien, pas encore chrétien lorsqu'il a fait le voyage, et qui s'appelle Charlie Duke. Et c'est d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on repasse régulièrement à la télévision, hein, les premiers pas d'Armstrong sur la Lune, et bien il se trouve que c'est lui qui donne la réplique à Armstrong à cet instant-là, c'est lui qui est au micro sur Terre et qui répond à Armstrong. C'est sa voix qu'on entend lorsque Armstrong pose le pied sur la Lune. Et il est parti 3 ans lui-même, 3 ans plus tard, avec Apollo 16 sur la Lune. Et il décrit dans son témoignage combien furent fantastiques les 3 jours passés sur la Lune, comment il a pensé à ce moment-là que rien ne pourrait être plus grand que ce qu'il vivait là. Et 6 jours après son retour sur Terre, il a été invité par des amis à un séminaire, mais je vous propose d'écouter plutôt, de regarder, d'écouter plutôt ce qu'il dit de ce moment. Je marcherai avec Dieu éternellement. Est-ce qu'il faut en être arrivé à ce point, avoir accompli tout ce à quoi nous aspirons et en mesurer les limites pour réaliser que notre espérance porte au-delà des circonstances de nos vies? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce précisément parce que nos exigences sur la vie, envers la vie, auraient été déçues que nous serions tournés vers Dieu? Ce sont deux choses qui sont très présentes hein, dans les témoignages qu'on entend à droite et à gauche. D'une part, ceux qui disent avoir rempli leur vie de tout un tas de choses motivantes, passionnantes, avant de réaliser qu'elles ne comblaient pas vraiment toutes leurs attentes. Et d'un autre côté, ceux qui n'ont pas bénéficié de circonstances favorables pour accomplir ce qu'ils auraient souhaité, obtenir de la vie ce qu'ils en attendaient. Les premiers trouvent en Dieu une plénitude dont ils n'ont pas été comblés, pourtant dans leur vie pourtant riche, leur vie antérieure pourtant riche, tandis que les seconds trouvent une consolation en Dieu de tout ce dont la vie les a privés. N'y aurait-il donc que 2 sortes de chrétiens, les winners insatisfaits ou les losers amers? Ceux à qui la vie a tout donné, sauf le bonheur, et ceux à qui elle a tout pris, même le bonheur. Si tel est le cas pour vous, si vous êtes dans une de ces 2 catégories, et que c'est dans de telles circonstances que Dieu s'est révélé à vous, gloire lui soit rendue, gloire à Dieu. Merci Seigneur de ce que tu t'es servi de nos échecs, tu t'es servi de nos échecs pour nous rapprocher de toi. Merci de ce qu'à travers nos dépits et nos désillusions, tu nous montres que toi, tu ne nous décevras jamais. Merci Seigneur d'être le grand réparateur de nos vies. Mais Dieu veut aussi en être le grand conducteur. Et au point où nous en sommes aujourd'hui, chacun d'entre nous, et regardez autour de vous la diversité que nous représentons, ne regardons que ne serait-ce que l'âge. Maintenant, ce qui importe pour chacun d'entre nous, ce n'est pas le passé, mais c'est l'avenir. Ce n'est même pas comment vais-je ne pas répéter mes erreurs du passé, mais plutôt quelle vie pour moi avec Dieu. Ne viendrait-on à Dieu qu'après une déception ou un échec? Faut-il être allé jusqu'au bout de ses illusions, avoir bu jusqu'à la dernière goutte d'amertume de ses échecs pour dire à Dieu « prends les commandes de ma vie » Et là, il se trouve que ce matin, Je pense à nos jeunes et que nos jeunes sont bien représentés dans notre assistance, peu nombreuses. Les jeunes sont nombreux. Et je pense à eux, une vie confiée à Dieu dans tous ses aspects dès le départ. Pourquoi pas ? Des projets personnels, professionnels, familiaux, conjugaux, placés dans les mains de Dieu dès leur émergence dans nos pensées. Pourquoi pas ? Faut-il avoir fait les 400 coups ? Faut-il avoir connu l'échec d'une vie que Dieu ne dirige pas totalement ? Faut-il avoir vécu la déception et la désillusion pour laisser Dieu s'installer dans le siège du conducteur ? Et je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, et les quatre premiers versets. Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Il est assez frappant de constater dans ce passage qui fait quand même écho au premier, hein, cette déclaration de l'apôtre Paul, votre vie est cachée en Dieu, quand on l'a met en rapport avec le passage que nous avons lu tout à l'heure, on voit qu'effectivement, il est question dans les deux cas de la résurrection. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Paul commence ainsi de cette manière-là. Et on a ici le développement de la déclaration de l'apôtre Paul, hein, ce n'est pas en cette vie seulement que nous espérons en Christ, avec des conséquences très concrètes. Cherchez les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu, plus encore, attachez-vous aux choses d'en haut. Mettez-y toute votre pensée, mettez-y tout votre cœur. Et une traduction plus ancienne disait « affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Ne soyez pas trop attachés aux choses de la terre, car elles n'ont qu'un temps, elles passeront vite. Projetez-vous dans la gloire à venir lorsque le Christ paraîtra. Et puis, cette formule, Christ votre vie, que Paul utilise par ailleurs en disant Christ est ma vie. Il n'y a pas d'un côté le Christ et de l'autre côté des vies, mais des vies en Christ. Je me suis longtemps interrogé sur le sens de cette déclaration « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que nous aurions en quelque sorte deux vies, d'un côté une vie terrestre, une vie matérielle, et d'un autre côté une vie spirituelle, une vie céleste, et que les deux se dérouleraient parallèlement, ne se croisant qu'en de rares occasions, peut-être lors des cultes et des rencontres d'église ? Je ne pense pas que le mot « caché » soit là pour établir une séparation entre le matériel et le spirituel, entre le céleste et le terrestre, ou sinon, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, il nous faudrait sortir du monde. Tant que nous sommes de ce monde, nous sommes des êtres de chair et d'esprit, et ce qui nous est demandé, c'est que la chair soit soumise à l'esprit et non le contraire. C'est ce que il dit un petit peu plus loin, si je lis le verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Faites mourir, non la chair, mais ce que produit la chair. » Une vie cachée avec Christ en Dieu, c'est une vie sauvegardée par Dieu, mise à l'abri, préservée, mise à part, même si ce n'est pas encore visible extérieurement. On est plutôt là dans l'idée d'une assurance, d'un trésor invisible, mais qui nous est réservé pour le jour où le Seigneur apparaîtra. Et si ce trésor est encore caché à nos yeux terrestres, nos vies ne sont pas cachées aux yeux de Dieu. On est souvent dans une perception très craintive de cette idée que Dieu nous voit, qu'il voit tout de nous, Et bien évidemment, nous pensons à nos chutes, aux fois où nous laissons la chair dominer l'esprit. Mais nous pouvons trouver dans cette idée que Dieu nous voit toujours, tout le temps, nous pouvons trouver dans cette idée du réconfort. Je dirais même que nous devons, il nous faut, en avançant dans la vie chrétienne, trouver notre force dans la pensée que Dieu nous voit. Pour accomplir ce qu'il attend de nous, sans forcément attendre les éloges des autres. Je ne dis pas que l'encouragement est chose inutile, bien au contraire, et je crois qu'il faut veiller à nous encourager les uns les autres. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas servi du Mark Twain, ça monte à plusieurs mois, et je crois en plus que cette citation, je l'ai déjà faite, mais je ne résiste pas. Avec un bon encouragement, disait Mark Twain, je peux vivre au moins 2 mois. Mais il viendra toujours un temps où cet encouragement viendra à manquer. Pas par négligence, encore moins par hostilité, mais parce que précisément l'œil humain n'est pas celui de Dieu et qu'il ne voit pas tout. Il viendra toujours un temps où l'on s'habituera à votre œuvre régulière, dans tel ou tel domaine, et dans l'Église même, et où vous aurez l'impression d'être une bête de somme à laquelle on ne pense même plus à donner un peu d'avoine de temps en temps. Jésus a mis en évidence la vanité de ceux qui accomplissent quelque chose pour être vus des hommes, fussent-ils croyants les uns comme les autres, et leurs actions fussent-elles hautement méritoires, bibliquement parlant. De ces personnes, Jésus dit qu'elles tiennent là leur récompense. Si c'est cela qu'ils cherchent, être vus des hommes, si c'est cela qu'ils attendent de la vie, si c'est cela leur exigence envers la vie, alors ils sont comblés pour le moment. Mais il viendra toujours un temps où leur public ne sera pas à la hauteur de leur attente. Et là, que vont-ils devenir? Deviendront-ils amers? Se retireront-ils? Chercheront-ils un autre public? Peut-être avez-vous renoncé, pour un temps ou pour toujours, à quelque chose d'important pour suivre Jésus, parfois à quelqu'un d'important. Et personne n'a idée à quel point cela vous en a coûté, et peut-être vous en coûte encore. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, dit Pierre à Jésus, qui lui répond. Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Je crois que cette parole a une portée qui dépasse très largement le cas de celui qui entre dans le ministère à plein temps pour le Seigneur. Cette parole est aussi pour le chrétien qui quitte son foyer pour se rendre à l'étude biblique, à la réunion de prière, à une réunion du conseil, à une répétition de musique, au ménage et que sais-je encore. Cette parole est aussi pour le conjoint qui accepte de voir s'absenter celui ou celle qui le quitte pour servir le Seigneur dans l'une de ces choses. Rien de cela n'est caché aux yeux de Dieu et aucun de cela ne perdra sa récompense. Peut-être avez-vous porté une idée, une vision qui, lorsque vous l'avez proposée, a été balayée d'un revers de main quand vous l'avez suggérée, mais qui, à terme, a fini par s'imposer et que tous trouvent formidable maintenant, à commencer par ceux-là même qui l'ont rejeté initialement, parfois même en oubliant d'où elle est sortie. Réjouissez-vous. L'important est-il que votre clairvoyance soit louée, ou plutôt qu'elle serve le bien commun et l'avancement du royaume de Dieu. Les hommes ne le voient peut-être pas toujours, mais Dieu le voit. Dieu me voit. Sachons trouver notre joie en Dieu. On l'a beaucoup chanté ce matin, de trouver notre joie en Dieu. Sachons trouver notre joie en Dieu. Sachons trouver notre bonheur dans le constat qu'il œuvre dans nos cœurs, qu'il oriente nos pensées, qu'il se sert de nous et surtout, surtout, d'être ses enfants. Aux disciples qui revinrent fascinés de la mission à laquelle Jésus les avait invités, fascinés par le nouveau pouvoir qu'ils venaient d'expérimenter de chasser des démons, de ce que même les démons leur étaient soumis, disent-ils, Jésus répond tout d'abord en confirmant l'authenticité de l'expérience spirituelle, de leur expérience, mais tout de suite après, il leur adresse une mise en garde. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et là encore, l'enseignement de ce passage peut être élargi. Ne pas trouver notre joie, ne pas chercher notre joie dans nos dons, ne pas fonder notre bonheur sur la réussite, quand bien même ce serait une victoire spirituelle, mais trouver notre joie, la plénitude du bonheur, dans notre appartenance à Dieu, dans la promesse de la résurrection. Bientôt, au terme de notre réflexion, je pense à ce chant dont le titre est « Ma joie de t'appartenir ». Et c'est marrant parce qu'il n'y a que le titre qui dit ça, le reste du chant en parle très peu. Mais le titre dit ça, « Ma joie de t'appartenir ». Il y a quand même des paroles qui le rappellent. « Mes yeux contemplent ta gloire. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul, fais tout mon bonheur. » En fait, ce message aurait pu être beaucoup plus court ce matin si je m'étais contenté de la lecture d'un simple passage de la Bible, parce qu'il y a dans la Bible un chapitre qui résume étonnamment bien tout ce que nous avons partagé ensemble. Et ce chapitre, c'est Philippiens 3. Et je vais vous le lire dans la version du semeur. Donc Philippiens 3 dans la version du semeur. Mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. On l'a chanté ce matin. Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Christ est ma vie. Nous avons lu aussi. Je reprends la lecture. Il m'en coûte de ne pas me répéter en vous écrivant. Et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. C'est une référence à la circoncision que certains voulaient voir les chrétiens pratiquer. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ. Nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu, un CV parfait. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je fais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte, à cause de ce bien suprême qui est la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la croix, mais à la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue de courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Christ est ma vie. Christ, notre vie, dit Paul par ailleurs. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, que je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière, nos échecs, nos désillusions passées, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma route vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. C'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers des choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et ça fait écho à notre vie cachée en Christ. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Je vous laisse avec ce passage que peut-être vous pouvez méditer en repensant au point que nous avons évoqué. Et je vous propose de prendre ensemble un chant, le chant de la marche en avant, le chant de laisser derrière le passé et d'aller de l'avant avec le Christ nous précédant.